Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo avec vous. Ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Et comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs marquants. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Élisée Mpatine depuis Boïkon au Bénin. Élisée, bonsoir.
Oui, bonsoir Yacouba et bonsoir à tous.
Avec nous également, le doyen Jules Valentin Ngoué est en direct depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Nous retrouvons Amdine Sy à Columbus dans l'Ohio, ici aux États-Unis. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Merci à tous de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. Nous parlons ce soir du dénouement de l'AFRO-CAN Angola 2023, bien sûr. Le Maroc qui succède à la RDC en football, deux événements majeurs. Le mondial féminin qui débute ce jeudi 20 juillet et les éliminatoires du mondial masculin zone Afrique avec la constitution des groupes. Et enfin, nous évoquerons en tennis le tournoi de Wimbledon. La Tunisienne Hans Jaber tombe encore. Basketball donc pour commencer. Le Maroc a remporté l'AFRO-CAN, une compétition, il faut le rappeler, réservée aux joueurs locaux. En finale, les Lions de l'Atlas locaux se sont offerts la deuxième édition donc de cette compétition. Suite à leur difficile victoire, in extremis face aux éléphants de la Côte d'Ivoire battus 78-76. Une belle consécration pour le pays 58 ans après son dernier sacre continental. Amin Birkou.
Débarquent en Angola en mode incognito, ils en repartent avec le titre de l'AFRO-CAN. Eux, ce sont les 12 joueurs marocains qui ont réussi à braver toutes les difficultés et surtout, après seulement 5 entraînements, à créer une belle alchimie collective. Preuve en est la montée en puissance de l'équipe tout au long de la compétition. Puisqu'après avoir démarré petitement contre le Rwanda en tour préliminaire, après avoir subi une lourde défaite face à la Tunisie, l'équipe du Maroc a su repartir depuis la case départ avec le match barrage contre le Cameroun, qualificatif pour les quarts de finale, le succès devant le Kenya et surtout la belle performance en demi-finale face au tenant du titre, la République démocratique du Congo. Par la suite, il fallait gagner la finale contre la redoutable sélection ivoirienne. L'équipe du Maroc a su dominer les temps forts du match, menant la mi-temps sur le score de 43-35, maintenant le cap pendant le troisième quart-temps et puis résistant au dernier rush des Ivoiriens en toute fin de rencontre. Les Marocains ont été adroits lors du money time, ils l'emportent sur le score de 78-76 avec un excellent Mohamed Chouaï qui a réussi 14 points et 15 rebonds et surtout le meneur de jeu Kevin Franceschi, MVP de la compétition qui a été de tous les bons coups dès le premier match. L'équipe du Maroc revient donc au premier plan sur le plan continental, sous l'impulsion de l'entraîneur Labib Hamrani. Espérons que ce succès en appellera d'autres et que lors des qualifications et surtout lors de l'Afro-Basket, le Maroc pourra retrouver son rang avant de peut-être viser plus haut et pourquoi pas espérer une qualification lors de la prochaine Coupe du Monde en 2027.
Alors, Élisée, les Marocains n'étaient pas forcément attendus à ce niveau-là et là, surprise, ils sont quand même champions.
Et bien évidemment, surtout ce que traverse actuellement cette discipline, la balle au palais dans le royaume chérifien où pratiquement il n'y a plus championnat, où il y a une crise interminable entre les clubs et la fédération. Vous imaginez donc cette difficulté à composer une équipe ou à associer cinq joueurs même issus de ce championnat où pratiquement vers la fin, on a eu droit à un seul match entre la Estale et bien sûr l'Olympique de Rabat. Vous imaginez donc c'est à l'issue de cette rencontre que voilà, il y a eu sélection et ces jeunes guerriers ont été amenés du côté de Luanda en Angola. Et vous imaginez, vous l'avez dit, cette équipe marocaine n'était pas attendue compte tenu de ce que traverse le basketball dans le pays. Une fois encore, ils ont eu un mental de fer. Ils ont quand même joué le match de leur vie en demi-finale contre le tenant du titre. Vous imaginez donc, en finale, ils n'ont fait que répéter cette performance face à la redoutable équipe ivoirienne où vous imaginez. C'est quand même extraordinaire ce que vient de réaliser le Maroc face à la Côte d'Ivoire qui aussi a commencé par se faire remarquer sur le continent puisque la Côte d'Ivoire est qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde. Là, c'est la vraie Coupe du Monde de basketball. Donc, les Ivoiriens ont bien joué, mais les Marocains ont pris le dessus et ont remporté leur premier trophée historique. Cela n'est plus arrivé depuis 50 ans, vous l'avez dit. Donc, bravo à ces Marocains.
Le Maroc succède ainsi à la République démocratique du Congo qui finit quatrième, battu lors de la petite finale par le Rwanda 82-73. Et puis le pays hôte, l'Angola, termine à la septième place, tombé devant le Nigeria. La Tunisie, victorieuse donc 67-59 devant le Kenya, prend la cinquième place. Alors, Jules, on va souligner la performance particulière d'une équipe, le Rwanda, qu'il faut le reconnaître, monte apparemment en tout cas en puissance en termes de basketball sur le continent.
Mais bien sûr, le Rwanda qui pense et le Rwanda qui est à l'origine du projet le plus ambitieux fait dans le domaine du basketball, celui de du Basketball African League, où le Rwanda était un pionnier. Ce projet a changé les paradigmes au niveau du basketball en Afrique. Et si on voit par exemple le Maroc passer au premier plan maintenant, au niveau de la Coupe des Nations, c'est que l'attention s'est portée plus sur ce championnat d'Afrique qui a le soutien de la NBA, des moyens financiers et humains d'un autre niveau. Alors ça a détourné relativement l'attention des grands acteurs traditionnels du basketball en Afrique, un exemple un peu du changement de hiérarchie qu'il y a eu en Europe dans le football quand la Ligue européenne des champions a pris le pas sur la Coupe des Nations.
Voilà, qui est bien dit. Alors, Amdine Sy, cette compétition de l'Afro-Basket a été, il faut le reconnaître également, d'un bon niveau et a montré surtout une sorte de nivellement, je le disais, vers le haut du basket local.
Tout à fait, Yacouba. Quand on voit ce que vient de réussir le Maroc et la Côte d'Ivoire, parce que ces deux équipes ont démarré par une défaite, puisque la Côte d'Ivoire aussi avait perdu quand même son premier match, tout comme le Maroc qui a perdu face à la Tunisie. Ça prouve que les équipes étaient d'un bon niveau. Si on regarde par exemple une équipe comme la Tunisie qu'on attendait, mais qui s'est fait sortir par la Côte d'Ivoire. Il y a également le Mali. Le Mali qui est une bonne formation au niveau du basket continental, surtout au niveau des petites catégories et locales. Le Mali aussi a été sorti par cette excellente équipe de la Côte d'Ivoire. Il y a aussi l'Angola. Moi, c'est ce qui m'étonne un peu. L'Angola, qui a organisé quand même cette compétition, l'Angola qui a plusieurs joueurs qui jouent dans son championnat, n'a pas pu tirer son épingle du jeu. Cela prouve simplement qu'il y a un nivellement de valeur. En tout cas, c'est une compétition à encourager parce que c'est tout bénéfice pour les joueurs qui jouent dans les championnats locaux, Yacouba.
Football à présent, la Coupe du monde féminine débute ce jeudi 20 juin en Nouvelle-Zélande et en Australie. La compétition prendra fin le 20 août, date à laquelle on saura qui va succéder aux États-Unis, championne bien sûr en titre. L'Afrique va être représentée par 4 pays, le Maroc, la Zambie, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Nous nous intéressons bien évidemment au groupe des pays africains Élysée. Avant d'analyser groupe par groupe en tout cas, l'objectif global pour l'Afrique est de se sortir de la phase de poule.
Et bien évidemment, Yacouba, puisque on se rappelle, la meilleure performance d'une sélection africaine, c'est bien sûr le Nigeria qui s'est qualifié pour les quarts de finale au niveau des Jeux Olympiques. Donc vous imaginez le Nigeria logé dans un groupe très difficile, il faut le dire, avec le pays hôte. Donc, c'est dire qu'il faut tout faire pour passer d'abord. La première étape, c'est bien sûr se qualifier pour les huitièmes de finale et les sélections qualifiées. L'Afrique du Sud qui a commencé par monter un peu sur le continent, c'est vrai que cette sélection a connu un peu de difficultés dans sa préparation avec les sprints réclamés par les joueuses. Le Maroc qui sait bien préparer, le Maroc qui est un modèle quand on parle du football féminin sur le continent avec d'énormes d'infrastructures en la matière, avec notamment le centre de formation du football féminin, vous imaginez. Donc après ça, la Zambie qui depuis près de 3 à 4 ans est restée constante, vous imaginez. Donc cette équipe zambienne pourra créer la sensation, surtout avec son attaquant qui fait feu de tout bois. Le Nigeria, l'éternel expérimenté, donc vous imaginez, à part le Nigeria qui a un peu l'expérience de ce haut niveau, les autres sont pratiquement là pour apprendre. Mais une chose est sûre, le Maroc avec un certain Renat Pedros, un entraîneur expérimenté, pourra passer le premier tour. Sinon, le reste, je vois que le Nigeria pourra faire quelque chose.
En tout cas, c'est tout le mal qu'on souhaite à cette équipe marocaine et aux autres, bien sûr. Alors, Jules, on le sait, hein, le Nigeria plus expérimenté, quart de finale à la clé, logé dans le groupe B avec le Canada, l'Australie, la République d'Irlande. Le Canada, l'Australie qui accueille, il faut le reconnaître, et le Canada également qui a une très bonne équipe féminine. Quelles sont les chances hein, de cette équipe nigériane, Jules?
Oui, mais il faut dire que déjà le Nigeria est un des représentants africains les plus sûrs, de par son expérience, son vécu, et justement, on a la chance qu'il soit au moins parmi ces nations qui sont pour la plupart nouvelles dans cette compétition. Alors, face au Canada, à l'Australie, ce sera déjà du déjà vu, c'est-à-dire que les Nigérians vont se mettre au niveau et tout se jouera pendant les rencontres. L'Irlande est peut-être d'un niveau légèrement inférieur, mais le Nigeria peut jouer sa carte convenablement dans cette poule.
Justement, le Nigeria qui peut compter hein, sur une des filles comme Aziza Oshoala qui évolue à FC Barcelone, plusieurs fois ballon d'or africain féminin. Mais c'est surtout, il faut le reconnaître, le rendement collectif de l'équipe qui va sans doute faire la différence. Alors, Amdine, lorsqu'on parle du Nigeria, du Canada, de l'Australie, de la République d'Irlande, vous voyez les filles se sortir d'affaires?
Non, ce sera très difficile. D'abord, pour le Nigeria n'a jamais raté une phase finale de cette Coupe du Monde. Donc, c'est la 9e édition et les Nigérians ont été présents. D'abord, c'est un acquis. Élisée l'a dit tantôt, les Nigérians ont été quart de finaliste de cette Coupe du Monde et elles ont été éliminées après la série, après prolongation par le Brésil, c'était en 1999. Donc, c'est une équipe expérimentée. Mais il y a un grand mais puisque les Nigérians sont tombés sur du lourd, du très lourd. D'abord, en match d'ouverture, le Canada. Le Canada est champion en titre olympique. Ils ont gagné la médaille d'or lors des dernières Jeux olympiques. Donc, c'est une équipe vraiment redoutable. Ensuite, il y a l'Australie. L'Australie qui organise cette compétition, c'est le pays hôte. Donc, ce sera très difficile. Maintenant, il y a l'Irlande qui découvre cette compétition. Donc, les Nigérians peuvent peut-être... pourquoi pas battre l'Irlande, mais ce sera très difficile de passer face à ces deux formations que je viens de citer. Maintenant, on est en football et les Nigérians, on sait que les Africains sont comme ça. Quand on les a enfants, ils peuvent créer sa famille difficile. Donc, je pense que le Nigeria peut créer la sensation, mais ce sera extrêmement difficile, Yacouba.
Voilà, avis d'Amdine Sy. La Zambie partage le groupe C avec le Japon, l'Espagne et le Costa Rica. Élisée, on connaît les équipes sud-américaines féminines, souvent très physiques. L'Espagne a un jeu fin. Est-ce que les Zambiennes, disons, doivent allier tout cela, physique et jeu fin?
Oui, naturellement, puisque à part le Costa Rica, on a d'ailleurs même vu la Colombie livrer un match amical où il y a eu tellement de tacles irréguliers.
Absolument.
Où l'entraîneur d'en face a dû arrêter le match. Donc vous imaginez, la Zambie a de quoi être inquiète par rapport à cette sélection de Costa Rica. Le Japon et l'Espagne ne les présenteront même plus. Le Japon qui a, quand on parle de football féminin, le Japon c'est le haut niveau. L'Espagne aussi qui a commencé par se faire remarquer dans cette discipline avec notamment le FC Barcelone qui a rappelé tout, presque tout hein, sur le vieux continent. Vous imaginez la Zambie franchement a du pain sur la planche. Sinon, ça va être très 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 difficile pour les Zambiennes de sortir de ce groupe-là.
Les Banyana sont logés dans le groupe G qui comprend la Suède qui n'a manqué qu'une seule fois hein, de passer la phase de groupe. L'Italie aussi qui a été quand même décevante hein, lors de l'Euro 2022 et l'Argentine qui n'a pas encore gagné un seul match lors de ses trois dernières participations en Coupe du Monde. Alors Amdine, il faut le reconnaître, la pression est quand même forte hein, sur les champions d'Afrique en titre.
Oui, la pression est très forte hein, pour cette équipe sud-africaine qui va disputer sa deuxième Coupe du Monde après celle disputée en 2019 à la France. Mais, bon, comme on le dit, c'est aussi un groupe extrêmement relevé. La Suède, vous l'avez dit, qui reste sur une finale perdue lors du dernier mondial. Donc, c'est une équipe redoutable. Donc, l'Italie et l'Argentine aussi. C'est vrai que
sont inférieurs à la CEP, mais c'est des formations redoutables. En tout cas, ce sera extrêmement difficile aussi pour les Sud-Africaines. Nous croisons les doigts, Yacouba, et on va voir ce que cela va donner, mais ce sera encore très difficile.
En tout cas, les Sud-Africains disent avoir réglé leur problème d'argent avec la fédération, et donc, vous le savez, la plupart des équipes africaines sont bâties autour de problèmes, bien sûr, financiers, liés justement aux primes de match et autres, et donc aux primes de participation et tout cela. L'Afrique du Sud a connu ces moments-là, mais tout est rentré dans l'ordre, selon le président de la Fédération Sud-Africaine de football, Gianni Dordan. Le Maroc, finaliste perdant à domicile l'année dernière face à l'Afrique du Sud, est dans le groupe H et fera face donc à l'Allemagne, la Colombie et la République de Corée, la Corée du Sud. Donc, Amine Birouk revient sur la préparation de l'équipe du Maroc.
D'abord, l'équipe du Maroc s'est préparée consciencieusement pour sa première apparition mondialiste dans sa version féminine, avec de nombreuses rencontres amicales contre des sélections européennes à partir du mois de septembre dernier. Et les derniers tests ont été plus ou moins positifs, avec deux matchs nuls contre la Suisse et l'Italie en déplacement. Peut-être avec un bémol, la défaite lors du dernier test amical contre la Jamaïque sur place, 1-0. L'équipe du Maroc débarque avec l'ambition d'apprendre, de représenter honorablement l'Afrique, de faire bonne figure en étant la première nation arabe à disputer la Coupe du Monde féminine. Et puis, s'il y a un coup à jouer, notamment dès la deuxième rencontre contre la Colombie ou lors du troisième test contre la Corée du Sud, il y aura peut-être possibilité de jouer au trouble fait dans un groupe où l'Allemagne part avec la faveur des pronostics et très largement. Mais ensuite, il y a de la place pour les coéquipiers de Reisen Schubeck, de Rosé Lyon. Il est vrai que l'arrivée de Reynald Pedros a topé la confiance des jeunes filles. On l'a vu lors de la dernière CAN où elles ont fait plus que bonne figure, atteignant la finale. Et puis on le verra très certainement pendant la Coupe du Monde parce que cette équipe dispose de qualités techniques, d'envie de sortir le ballon proprement, de jouer en remise, en une, deux touches de balle, d'aller vite vers le but et de proposer un football équilibré. On le verra par la suite puisque la Coupe du Monde féminine n'est qu'une étape lors des éliminatoires des JO de Paris et surtout lors de la prochaine CAN que le Royaume chérifien accueillera pour la deuxième fois consécutive.
Football toujours, mais cette fois-ci, nous parlons de la prochaine Coupe du Monde masculine 2026, prévue ici aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les groupes des éliminatoires Zone Afrique sont connus. Le tirage au sort a eu lieu jeudi dernier à Abidjan avec 9 billets à la clé, avec une possibilité d'un 10e ticket à prendre en barrage. Alors Jules, a priori, ce sont des groupes homogènes qui ont été constitués.
Oui, ce sont des groupes homogènes qui ont été constitués, surtout dans l'optique de qualifier la meilleure équipe africaine possible. Parce qu'avec 9 participants à la Coupe du Monde, on n'aura plus des cas de figure comme l'Algérie, le Nigeria ou l'Égypte, des équipes très fortes avant la dernière Coupe au Qatar, mais qui sont restées sur le tapis. Et donc cette fois-ci, chaque poule a un favori et bien clair et suffisamment de matchs, c'est-à-dire 10 rencontres. Pour se sortir de la poule, et on ne parlera pas de surprise avec des coques en jambes de dernière minute ou bien un match catastrophe qui plonge une grande équipe. C'est-à-dire c'est le plus fort qui va gagner dans cette poule où il y aura un favori, des outsiders, des prétendants possibles, mais aussi des faiseurs de rois. Je crois que les poules sont équilibrées et toutes les équipes qui sont placées pour mieux nous représenter au mondial et sont dans des poules jouables.
Voilà, parlant d'équipe justement mieux placée, le champion d'Afrique en titre, le Sénégal, partage le groupe B avec la République démocratique du Congo, la Mauritanie, le Togo, le Soudan et le Soudan du Sud. Amdine, pas la mer à boire, sur papier en tout cas.
Tout à fait, il faut le dire, c'est un tirage assez abordable pour le Sénégal, champion d'Afrique. Il faut dire que le Sénégal qui a un peu le vent en poupe puisqu'ils ont battu le Brésil, donc le Sénégal devrait sortir normalement de ce groupe, mais le Sénégal doit faire attention parce que le Sénégal va rencontrer la RDC que je trouve très bon. Ils ont beaucoup de talent, peut-être qu'ils ont un problème d'organisation à ce niveau. Il y a également la Mauritanie. Comme vous le savez, le Sénégal et la Mauritanie, c'est des pays frontaliers, donc c'est un derby et les derbys sont toujours difficile, mais il y a également le Togo. On se rappelle encore que le Sénégal avait raté le mondial 2006 parce que tout simplement, les Sénégalais ont eu à faire face à Togo, les épervier amenés par un certain Adebayor qui avait éliminé le Sénégal. Donc, il faudra faire très attention. Maintenant, il y a également les deux déplacements périlleux à négocier contre les deux Soudans. Mais je pense que c'est abordable, surtout que le coach Alusis, depuis qu'il est à la tête de cette équipe nationale du Sénégal, n'a jamais, jamais, jamais raté des éliminatoires. Que ce soit en 2017 pour la CAN, il avait réussi à qualifier l'équipe avec un parcours sans faute. En 2019, pareil, en 2021, pareil, pour la Coupe du Monde, c'était la même chose en 2018 et en 2022. Donc, on peut vraiment croire aux chances sénégalaises, Yacouba.
Écoutez, tout le mal qu'on souhaite à cette équipe sénégalaise, bien sûr, c'est de retourner en Coupe du Monde. Le Maroc, devenu l'automne dernier au Qatar, la première équipe africaine à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde, on va juste le rappeler, doit notamment jouer la Zambie, le Congo et la Tanzanie. Et puis de son côté, le Bénin logé dans le groupe C avec le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, le Rwanda et le Lesotho. Retour donc sur ce groupe du Bénin avec le coach des Guépards.
Le Bénin est tombé dans un groupe extrêmement relevé, avec évidemment comme favori le Nigeria, une équipe qu'on connaît assez bien, mais aussi les autres, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, qualifiée déjà pour la prochaine CAN très tôt, avec un nouvel état d'esprit. Évidemment aussi le Zimbabwe, qui a une équipe très physique, très solide également. Nous avons le Rwanda que nous connaissons assez bien et je pense que cette équipe-là n'a pas très bien digéré sa défaite sur le tapis vert contre le Bénin, mais on devra être capable de gagner aussi sur le terrain sans avoir besoin du tapis vert. Et puis il y a également le Lesotho qui est un pays qu'on connaît bien.
Voilà, notre coach des Guépards du Bénin, Élisée, très rapidement, en 15-20 secondes, tout est possible dans ce groupe, même s'il y a le Nigeria quand même.
Oui, tout est possible. Et il faut simplement retenir que le Bénin a des difficultés à battre tous ses adversaires. Seul, le Bénin n'a pas encore affronté le Zimbabwe à ce niveau des éliminatoires. Sinon, le Bénin n'a pas pu battre le Lesotho quand le Lesotho était dans son groupe. Pareil pour le Rwanda, où bon, on a eu victoire sur tapis vert. Le Nigeria, n'en parlons même plus. C'est un groupe technique à la fois et physique. Et comme l'a dit Guénot, l'objectif, c'est de se qualifier pour ce mondial. Donc, passe déjà au travail et on espère vivement que le Bénin pourra se qualifier à cette Coupe du Monde pour la première fois de son histoire.
Sans transition, nous parlons de tennis. L'Espagnol Carlos Alcaraz a remporté son premier Wimbledon en mettant un terme à la longue invincibilité de Novak Djokovic. Le Serbe donc qui l'a privé en outre du record absolu de titre du Grand Chelem. Et puis, chez les dames, pas de titre pour Ons Jabeur. La Tchèque Markéta Vondrousova, 42e mondiale, a remporté à Wimbledon son premier tournoi du Grand Chelem en battant en finale la Tunisienne 6-4, 6-4. Analyse avec Jules Valentin Gouy.
Oui, il faut dire... Et Yacouba, que cette finale a été plutôt une contre-finale pour Ons Jabeur, la représentante africaine et de la Tunisie. Tous les clignotants étaient ouverts pour qu'elle puisse faire une finale qui honorait le continent pour la première fois et de manière précoce. Mais la Tunisienne, qui avait bien entamé ses deux sets et joué avec une avance de 4-2 puis de 3-1, s'est effondrée à la fin de deux séquences. En multipliant des fautes techniques inhabituelles, comme des services très quelconques, des renvois lisibles, des passes short du mauvais côté de la ligne, des imprécisions au filet, ce qui a profité à la Tchèque, venue juste pour se relancer et dans les grands tournois de tennis. On espère que notre championne va corriger sa copie à l'US Open qui s'ouvre bientôt et qu'elle va essayer de nous redonner une deuxième chance pour pouvoir accrocher le Graal.
Voilà, merci beaucoup à Jules Valentin Goué, merci à Élisée Mpatine depuis le Bénin, merci à Amine Birouk au Maroc, merci donc à Amdimsi dans l'Ohio ici aux États-Unis. Merci à vous, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute de cette émission réalisée par Michel Joseph. Je suis Yacouba Ouédraogo, Sporama s'achève ici, on va se retrouver la semaine prochaine. Mais en attendant, une nouvelle édition du journal, tout de suite, c'est avec Jean-Roger Billon. Au revoir.